Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Itzhak Goldberg. Alors quand je dis nous, c'est la librairie Mola dans le cadre de ces rencontres. Quand je dis nous, c'est aussi en mon nom. Hein. Alors je suis Cécile Cross, maître de conférence HDR à l'université Bordeaux-Montaigne et à l'IUT. Et c'est nous tous, parce que effectivement, nous sommes ici pour qu'Itzhak Goldberg partage avec nous sa recherche et notamment le dernier fruit de sa recherche, qui est ce livre titré Installation. Alors Itzhak Goldberg est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et chercheur au CIREC. Alors CIREC, c'est le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche,
etc.
Sur l'expression contemporaine.
Quelque chose comme ça, oui.
Voilà. C'est une recherche plurielle. Itzhak Goldberg est également critique d'art au Journal des Arts. Il est l'auteur également de nombreux articles dans des revues spécialisées, catalogues d'expositions. Il est également conseiller scientifique, commissaire d'exposition sur Georges Grosse, Esmin Nold, Oscar Kokoschka, la gravure en Amérique de la Dépression, encore la photo en Algérie au XIXe siècle. Il a publié beaucoup, Jalinski ou Le village promis en 1998, Marinette Cueco et le Landart en 1998, la sculpture moderne avec Françoise Monin en 1995 et Le visage qui s'efface de Giacometti à Baselitz en 2008, notamment. Et puis, pardon.
Non, j'écoute et je rougis, c'est bon.
C'est pas des compliments, c'est des faits.
Oui.
Et Installation, donc Installation, CNRS Édition, qui vient de sortir. Alors, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. L'installation, les installations, c'est des installations plurielles. Qu'est-ce que c'est? Qu'appelle-t-on? Que peut-on appeler installation en art? Alors, c'est une question difficile, comme l'est sans doute toute tentative de définition, mais peut-être encore plus en ce qui concerne les installations. Comme vous le notez en exergue de votre ouvrage, en citant René Payan, j'ai prévu de vous citer citant René Payan, on pourrait faire un inventaire exhaustif de ses œuvres, mais ce qu'il révélerait apparaît aussitôt que l'on en compare quelques-unes, l'hétérogénéité, la diversité, l'absence de points communs évidents entre elles, etc. Alors, il apparaît très courageux d'écrire sur ce qui apparaît comme une, entre guillemets, accumulation de cas. Alors, effectivement, dans ces cas, on pourrait citer les colonnes de Buren comme installation, l'entassement de milliers de chaises par Kawamata, ou bien peut-être cet ensemble de deux œuvres de Joseph Beuys qui sont en couverture, l'une datant de 1966 et l'autre 84. D'ailleurs, est-ce une installation? Je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure. Alors, la solution de facilité eût été de mener une approche historique. Itzhak Goldberg est historien de l'art, et c'est peut-être la chose qui nous vient à l'esprit le plus facilement, c'est-à-dire les débuts de l'installation, ses influences, ses ancêtres, ses précurseurs, puis ses développements, son actualité. Mais ce n'est pas votre choix. Et d'ailleurs, nous vous en remercions. Le chapitre consacré à l'apparition des installations arrive au milieu du livre, page 125. Alors, c'est presque fini.
Non, mais allez-y. Parce que j'ouvre. Prenez votre temps.
Hein. Ce que je ne vous ai pas prévenu, ni vous ni personne d'ailleurs, en général, sauf cette question-là, qui vous permettra de présenter votre travail, mais les autres questions risquent d'être doubles ou triples. Voilà, ça c'était pour la mauvaise nouvelle. Donc, votre choix est de commencer par les principes de l'installation. Alors, comment définir ces principes quand il est si difficile d'avoir une vue d'ensemble, globale et générale, sur l'installation? Comment peut-on écrire un livre sur l'installation, les installations, quand le principe même de l'installation est de ne pas supporter un point de vue synthétique et englobant? Quelle difficulté de penser et de présenter? Donc, comment, ça c'est ma première question, très ouverte, comment lister ces principes, comment constituer ce livre? Voilà.
D'accord, je vous remercie pour cette introduction. Comme je suis un historien d'art, je travaille avec des objets. Et quand je dis que je travaille avec des objets, je préfère, au lieu d'essayer de répondre de façon frontale à votre question, de vous montrer une série d'images et essayer d'expliquer ma démarche à travers ces images, comment j'ai procédé. Et on reviendra éventuellement sur cette question de définition ou cette question d'indéfinition plutôt, puisque effectivement, les côtés extrêmement hétéroclites, les côtés extrêmement hybrides, les côtés un peu envahissants d'installation rendent effectivement très difficile cette façon de la définition. Alors, on va. Comme dirait Magritte, ceci n'est pas une installation. Pourquoi je commence par cette caricature qui est faite par quelqu'un qui est extrêmement connu aux États-Unis? C'est un des artistes les plus populaires aux États-Unis, même si en France il est peu connu. Il est extrêmement connu parce que pendant très longues années, il faisait des couvertures d'une revue extrêmement connue aux États-Unis. Et ce sont des images épinales que tout Américain connaît. Donc Norman Rockwell représente ici, vous m'attendez bien au fond, ça va? Norman Rockwell représente ici un spectateur normal, moyen, qui est en train de regarder un tableau, je dirais en quelque sorte imitation de Pollock, prototype de Pollock. Mais si je commence par cette image, c'est pour vous dire immédiatement que je dirais que la différence essentielle, et ça peut entrer en quelque sorte dans la définition d'installation, qu'avec un tableau, on a toujours un rapport frontal, un rapport visuel. Vous êtes face à un tableau, ce sont vos yeux qui font le travail. Votre corps, bien sûr, il supporte votre tête, il supporte votre regard, mais il n'est pas encore pris en compte puisqu'il s'agit uniquement de rapports visuels avec le tableau. Une autre chose, normalement, quand vous avez une exposition entre guillemets classique, sauf qu'il n'existe plus, puisqu'on verra par la suite qu'il n'y a pratiquement pas un conservateur qui n'a pas au moins utilisé depuis une vingtaine d'années une partie des principes d'installation pour dynamiser, pour rendre plus vivant l'exposition. Mais a priori, quand vous êtes à une exposition, chacune des œuvres est séparée, et même si bien sûr il y a des rapports qui se créent et qui sont voulus entrer ces œuvres, a priori, le but d'une exposition classique, c'est de permettre à chacun des spectateurs, dans le meilleur des cas, de pouvoir s'isoler face à un tableau et avoir un rapport individuel isolé avec cette œuvre. Donc voilà le premier principe de tableau qui sera tout à fait à l'opposé avec l'installation. Là, je vous montre cette installation de l'artiste brésilien Ernest pour, en quelque sorte, aller tout à fait à l'opposé, presque de façon caricaturale, pour accentuer que la première chose probablement qui est spécifique aux installations par rapport à l'œuvre d'art traditionnel, c'est qu'à la place d'une expérience visuelle, on a ce qu'on peut appeler une expérience sensorielle. Ça veut dire que participe dans la réception de l'œuvre, non seulement votre regard, elle peut être tactile, elle peut être, il peut avoir une odeur, il peut avoir de la musique. Il y a de plus en plus d'installations qui participent à la musique. On n'a pas, c'était déjà assez compliqué techniquement puisque vous voyez les images, moi je les vois pas sur l'écran. Donc je n'ai pas voulu prendre trop de risques pour la sonorité aussi, mais vous savez comme moi qu'il y a une quantité très importante d'installations qui utilisent de la musique. Il y a la tactilité qu'on peut voir ici. Et ce qu'il y a dans pratiquement dans toute l'installation, une des premières choses, c'est premièrement, elle s'étale dans l'espace. Ce n'est pas un objet isolé, accroché ou posé face au mur, mais c'est quelque chose qui occupe complètement l'espace. On verra comment. Et le rapport avec le corps est beaucoup plus total, beaucoup plus holistique, puisqu'on ne s'arrête pas simplement au rapport visuel, mais ce sont les différents sens qui entrent en jeu. Voilà un exemple de ce qu'on peut appeler une installation. Et on va voir, je pense que la question sera posée plus tard, quelles sont les limites, les frontières entre la sculpture et l'installation. Vous allez voir que c'est une question qui n'est pas facile à répondre, mais vous voyez quelque chose ici qui a constituer une installation. Ici, il s'agit d'une œuvre absolument merveilleuse que je vous conseille vraiment courir les voir. Ça se trouve au musée de Guggenheim à Bilbao. C'est en quelque sorte, c'est pas aussi loin que ça. Hein. Avec les low cost espagnols, ça coûte 50 euros aller-retour. Et en stop, c'est encore moins cher. Donc, vous voyez ici une œuvre absolument splendide, qui a priori, soit vous la regardez de hauteur, puisqu'elle se trouve dans la partie basse, dans une salle très importante au musée de Bilbao. Vous montez au premier étage et vous avez la vision de l'installation entière, soit bien sûr, ce qui est plus important, vous vous baladez dans cette installation et là vous voyez, on n'a plus simplement ces rapports face à face où les corps n'existent pas. Ici, vous voyez que l'installation, à la fois, c'est une œuvre qui occupe entièrement l'espace, elle est dans l'espace, mais elle modifie l'espace et elle oblige les corps de participer, disons, dans l'effort ou au moins dans le parcours. Si vous voulez, je dirais que un des termes qu'on peut utiliser pour définition d'installation, c'est que le plus souvent, pas toujours, il s'agit d'un parcours. Et à la différence d'une œuvre d'art que vous venez de voir, qu'on peut voir immédiatement d'un seul coup entièrement, les installations, il est très rare que vous pouvez la voir d'un seul coup, ou au moins votre regard doit circuler, ou votre corps doit se déplacer comme ici, avec des sensations différentes. Ici, vous avez une œuvre qui est faite en métal, donc il y a une sensation de dureté. Vous avez en quelque sorte des couloirs qui sillonnent à travers toute cette surface, tout cet espace, et votre corps a une sensation différente quand les choses sont plus serrées, moins serrées. Et c'est ça que j'appelle l'expérience sensorielle et pas seulement visuelle. L'expérience visuelle, bien sûr, ne disparaît pas, puisque malgré tout, on a tellement l'habitude que c'est ça qu'on met en évidence, mais il est évident que votre corps réagit aussi dans ce parcours. Au point où je vous montre ici une installation qui n'existe plus, elle n'existe plus pour une raison extrêmement simple. Il s'agit d'un carrefour qui est au Manhattan, au milieu de New York. C'est une installation aussi de Serra qui était posée dans un lieu de passage. Et les passants, les gens qui travaillaient là-bas, se sont plaints pendant longtemps à la mairie qu'ils sont gênés dans leur passage. Ça peut nous paraître ridicule, mais c'est parfaitement logique et ça va tout à fait avec la logique d'installation qu'effectivement, non seulement elle modifie, elle change l'espace, elle peut aussi perturber l'espace, soit sur le plan visuel, soit en l'occurrence ici de façon tout à fait physique. Et effectivement, au bout des tractations, je ne sais pas comment ça se passait de façon légale, mais effectivement, cette installation a été enlevée à cause des demandes des gens qui habitaient là-bas ou qui travaillaient là-bas. D'ailleurs, on parle de ça, mais on oublie que Serra a fait dans les années 80 une installation de même type à Paris, qui se trouvait dans un parc à Paris, et pour une raison assez obscure pour moi, elle a disparu probablement puisqu'elle gênait en quelque sorte l'espace visuellement ou physiquement. Voilà pour tout petit peu historique, parce que Céline a dit que je n'ai pas fait l'historique. Oui, je l'ai fait à partir de la page 125, mais je l'ai fait quand même. Et là, vous voyez un des ancêtres, entre guillemets, et Dieu sait que je ne pense pas que Duchamp a tout commencé, comme tout le monde dit, mais son importance, bien sûr, est capitale. Et là, vous voyez en quelque sorte la mise en scène qu'il a fait pour une exposition surréaliste, où l'objet, a priori, au moins dans cette salle, ce n'est pas le cas avec les salles, sont accrochés de façon relativement traditionnelle. Mais quand je parlais des parcours, le parcours ici, évident, c'est presque un parcours de combattant, puisque vous voyez qu'ici, on ne se trouve plus avec un espace neutre, les fameux white cubes, dans lesquels on a une sorte de neutralité totale, mais on prend en compte le fait que quand vous êtes dans l'exposition, vous déplacez votre corps, vous vous sentez plus fatigué, vous voyez moins bien, les choses sont plus ou moins serrées, etc. Et bien sûr, ici, je ne parlerai pas d'installation, mais il y a, dans le cas de Duchamp, et ce n'est pas par hasard qu'il s'agit d'une exposition surréaliste, cette volonté de de perturber la convention de la façon d'exposer normalement, de façon soi-disant neutre, quand on sait bien sûr que n'importe quel accrochage, il n'est jamais net, parce qu'il s'agit toujours d'un choix, des choix qui peuvent paraître naturels, puisqu'on a l'habitude de les voir comme ça, mais en réalité, il y a toujours un substrat idéologique à chaque organisation, qu'elle soit chronologique, esthétique ou d'autres types. Voilà pour vous, puisque je savais que je venais à Bordeaux, donc merveilleux espace de CAPC où je suis allé cet après-midi. Et vraiment, vous avez de la chance. Bon, c'est un lien. Il y a 3 liens en France. Je pense que le CAPC, les abattoirs et la piscine, qui sont une installation à elle-même, parce que c'est vraiment un espace tellement particulier. D'ailleurs, ça doit poser un sacré problème à tous les artistes qui exposent là-bas, puisque se trouver face à un espace comme ça, on reste, on ne sait pas très bien quoi faire. Mais là, vous avez une installation de Buren qui date d'un certain temps, qui s'appelle « Dominant-dominé ». Le titre est tout à fait parlant parce qu'effectivement, c'est le rapport entre l'œuvre et son espace. Qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui est dominé, difficile à dire. Vous voyez qu'ici, l'espace était coupé en deux, puisque Buren a introduit des miroirs au milieu des énormes miroirs au milieu de cet espace. Et bien sûr, la vision de l'espace était tellement perturbée. Pour vous dire toute la vérité, quand j'ai regardé cette image aujourd'hui, l'espace est tellement perturbé que je ne suis pas sûr qu'elle est à l'endroit à l'envers. Hein. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas très important. Et voilà encore un exemple d'une merveilleuse installation que j'ai eu de la chance, ça ne nous rajeunit pas comme dirait l'autre, que j'ai eu de la chance de la voir à Bordeaux, dans le CAPC, c'est Jean-Pierre Reynaud, et que vous savez peut-être, je n'entrerai pas dans les détails, il a construit une maison, une sorte d'utopie urbaine, qu'à la fin il considérait qu'il ne pourra jamais rester aussi pire qu'il a voulu, donc il l'a détruit lui-même, et ce sont les morceaux de la maison qu'il a mis dans centaines de seaux, et les centaines de seaux qui remplissaient entièrement l'espace de cette cathédrale, en quelque sorte cathédrale industrielle, et qui avait un impact extraordinaire. Et là, j'introduis encore un élément. Je disais qu'on ne peut pas voir tout en même temps. Je dirais même qu'on pourra parler avec l'installation d'un regard dispersé, puisque vous ne voyez pas tout, votre regard se promène, votre regard se balade, et en quelque sorte, vous faites ou non la synthèse de tous les éléments qui sont montrés au fur et à mesure où vous avancez, où vous déplacez, et bien sûr, avec des points de vue différents, parce que selon les liens que vous trouvez, bien sûr, vous la voyez tout à fait de façon différente. C'est en partie vrai pour un tableau, mais nettement moins. Voilà cette façon de modifier l'espace, je dirais pour être extrêmement schématique, qu'il y a deux façons de modifier l'espace. Il y a une façon de s'adapter à la logique historique, religieuse, et on va voir des milliers d'installations pendant les 4 années ou avec les tourismes commémoratifs qui vont être liés à la guerre. Là, vous avez une installation qui était absolument splendide, d'un artiste japonais qui s'appelle Kawamata. C'est une chapelle qui se trouve, chapelle d'un hôpital parisien. Et je vous assure que je suis athée. Quand je suis entré dans cette église, je ne me suis pas mis sur les genoux, mais c'est un peu le sentiment qu'on avait, puisque l'idée d'élévation, l'idée de quelque chose de spirituel de la chapelle avec ce côté ascensionnel était bien sûr accentuée par cette construction, par ce bricolage entre guillemets que Kawamata a fait, comme d'habitude, avec des étudiants de Beaux-Arts qui ont travaillé avec lui. Ce que vous voyez ici, ce sont simplement des milliers de chaises qui sont mises ensemble, mais qui s'adaptent parfaitement au niveau de leur forme à cet espace. Donc vous voyez qu'on a encore une fois une œuvre, ce n'est pas seulement une œuvre autonome, mais une œuvre qui construit, dans tous les sens du terme, un dialogue qui peut être positif quand elle adhère à la logique religieuse ou spirituelle de cette chapelle, où on verra d'autres exemples. Un autre élément, bien sûr, mais ça, ce n'est pas spécifique à l'installation, mais beaucoup exploité par l'exploitation, c'est l'utilisation très courante des objets, souvent des objets quotidiens, très souvent d'ailleurs répétés à une grande quantité, c'est devenu presque un tic, c'est devenu presque une sorte de maniérisme d'installation, puisque même si je fais un livre sur les installations, je ne suis pas un missionnaire d'installation. Je pense qu'il y a des installations qui sont bonnes, je pense qu'il y a qui sont mauvaises, et que de temps en temps, il y a une sorte de liens communs qui se sont développés. De la même façon, vous savez, une des choses... La critique la plus bête par rapport à l'art contemporain, c'est n'importe quoi. Vous connaissez tous cette expression, je pense que si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Quand les gens disent c'est n'importe quoi par rapport à une installation, on peut comprendre, puisque en quelque sorte c'est n'importe quoi, dans le sens où effectivement la difficulté de la définition d'installation, qu'elle peut se permettre, ou au moins les artistes se permettent, d'inclure dans cette œuvre n'importe quel matériau, qu'il s'agisse de matériaux industriels, quotidiens, matériaux artistiques, etc. C'est une sorte d'une machine broyeuse qui peut, en quelque sorte, mettre ensemble, lier toute une quantité des éléments, effectivement. Et ce qui est aussi extraordinaire avec l'installation, c'est dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui travaille sur tous vos sens, quand ça marche, c'est absolument extraordinaire. Je vous dis le choc. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est le choc visuel, esthétique, sensoriel que j'avais face à cette œuvre. Par contre, j'en ai vu d'autres que j'ai trouvé vraiment désespérants de leur banalité. Donc, si vous voulez, c'est à vous aussi de prendre une distance et ne pas avoir un rapport religieux par rapport à l'installation, parce que ça fait partie de l'art contemporain. Voilà, bon, une autre installation qui a mal terminé, enfin, elle n'est pas trop mal terminée, mais enfin, elle n'est pas terminée, inachevée dans, je dirais, dans la tradition de l'œuvre d'art total romantique. Donc, un des principes, c'est d'être resté inachevable. Voilà un autre exemple d'une artiste que vous ne connaissez pas. C'est une artiste polonaise, mais qui travaille en France, qui fait des travaux, à mon sens, extraordinaires, à partir essentiellement de bois, parfois de verre. Et vous voyez qu'à sa façon, elle a aussi repris le dialogue avec les spirituels qu'on avait avec Kawamata. Avec Kawamata, on avait une démarche qui allait vers le haut, tandis qu'ici, c'est en quelque sorte une image qui va vers l'infini, vers la lumière, de façon différente, une volonté d'accentuer la spiritualité de ce lieu, que là aussi, c'est une église à Bar-le-Duc que Ludwig Hörgözöllek a remplie avec ces éléments qui sont liés. Vous voulez dire quelque chose, non?
Non.
D'accord. Okay. Et voilà, les choses changent quand l'artiste ne cherche pas, en quelque sorte, à s'adapter, à suivre la logique d'un endroit, mais au contraire, à le perturber, à le déranger. Voilà, ici, vous avez cet espace interdit aux solitudes, dans lequel, bien sûr, je vous rappelle ce qu'on a vu avec Duchamp, c'est une version contemporaine différente des mêmes principes, à savoir, vous trouvez un espace dans lequel vous êtes censé de pouvoir se déplacer sans aucun élément gênant, tandis qu'ici, vous êtes obligé de contourner, de faire un parcours, d'être gêné, etc. Et votre corps est impliqué, effectivement, dans la découverte de cette œuvre. Quand je dis parcours, ça peut aller carrément jusqu'au parcours de combattant. Quand vous voyez cette installation de Parmigiani qui l'installe lui-même, il l'amène de verre, il le casse, et... ce n'est pas une règle, je ne sais pas, il y a des endroits où on peut traverser, il y a des endroits où on ne peut pas traverser, mais on réfléchit deux fois avant de traverser, et surtout si on est en sandales. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, il y a quelque chose de tout à fait physique dans ces parcours, comme je disais, parcours de combattant. Mais cette façon de perturber, ici, c'est perturber l'espace de façon physique pour le spectateur, ça peut être fait de façon à la fois physique et symbolique, avec cette fameuse installation qui est de l'artiste allemande qui s'appelle Hans Hacke, qui était fait dans un lieu hautement symbolique, ça veut dire à la Biennale, un lieu pendant quelques semaines ou pas, quelques mois, tous les yeux du monde entier sont tournés vers cet endroit. Hacke, qui avait en charge les pavillons allemands, le pavillon allemand qui est une structure vraiment du temple. C'est vraiment une sorte de quelque chose extrêmement lourd dans la tradition des musées du 19e siècle où vous êtes censé de prier avant d'entrer puisque c'est en quelque sorte un rassaqué. Il est évident que son travail, à savoir tout simplement faire sauter les sols de ces pavillons, d'insister sur le côté destruction, d'insister sur le côté rupture avec l'histoire de l'Allemagne du XXe siècle, a un impact extrêmement fort sur le spectateur, surtout avec les contrastes entre cette architecture extrêmement traditionnelle et ce qui fait Haque. Vous ne le voyez pas ici, mais au fond, il y avait aussi un portrait de Hitler avec les marques au-dessous, les symboles de la nouvelle économie allemande et les symboles des passés allemands au XXe siècle. Je accélère pour qu'on puisse discuter après. Un autre exemple qui fait tout petit peu écho au dernier chapitre de mon livre, puisque Céline a évoqué certains éléments de mon livre. Effectivement, au début, ce sont les principes. Par la suite, c'est une historique avec les problèmes d'installation qui changent de style selon les périodes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir par son style. Et j'ai fini par certains thèmes, le choix des différents thèmes, par exemple les monuments, par exemple la mémoire. Et le dernier, c'est quelque chose qui me touche personnellement, ça veut dire l'installation comme un outil politique. Et je me suis concentré sur le Moyen-Orient, avant tout les rapports entre Israéliens et Palestiniens. Là, vous avez une œuvre de Mona Atoum, qui est une artiste palestinienne-libanaise, mais qui vit un peu en Europe, et qui fait cette œuvre qui s'appelle « Light Sentence », peine légère, où vous voyez comment, avec une œuvre, on occupe l'espace à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan symbolique. Bien sûr, le titre indique cette volonté, et il est évident qu'on a ici une sensation d'un espace carcéral, n'est pas seulement visuel, mais aussi à travers une sorte de sensation, la façon dont cette œuvre occupe l'espace. Je disais que si avant l'œuvre était dans l'espace, avec l'installation, l'espace fait lui-même l'œuvre, l'espace avec les éléments qui s'ouvrent à l'intérieur de lui et qui sont modifiés par lui. Voilà un exemple de Burin. Je montre d'autres exemples de Burin simplement pour un peu équilibrer mon livre, puisque dans mon livre, j'insiste beaucoup sur le fait que l'installation vient essentiellement quand même des États-Unis. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je dis rapidement, peut-être trop rapidement dans mon livre, qu'il n'y a pas que les travaux américains, qu'on a Boyce qui est sur la couverture, qu'on a Burin et d'autres artistes, des artistes d'art de Povera, mais pour des raisons que je leur vois maintenant, effectivement, les courants se développent essentiellement à la fin des années 50, début des années 60 aux États-Unis. Donc voilà une œuvre de Burin, ou de façon différente que Haque, puisque dans le cas de Haque, c'était une démarche politique littérale. Ici aussi, c'est une démarche politique, mais je dirais une démarche politique culturelle. Ça veut dire une remise en question de musée, encore une fois, comme une sorte de temple sacré, avec une entrée qui nous impose en quelque sorte d'emblée un respect. Cette façon de casser cette entrée, cette façon d'ajouter l'échafaudage à la structure du musée, et nous fait entrer par la porte de service, si je peux dire. Bref, changer les rapports qu'on peut avoir avec la visite des musées, je ne développerai pas davantage. Voilà, les deux plateaux étaient déjà évoqués par Céline. C'est peut-être l'installation qui a créé le plus le conflit dans l'espace public, puisque je ne sais pas si on aura le temps, probablement pas, de parler davantage de l'Endart, qui sont des installations, pour moi, qui se trouvent à l'extérieur. Ici, c'est plutôt un travail dans l'espace urbain, bien sûr, mais qui se trouve déjà à l'extérieur. Et c'est bien sûr une des spécificités d'installation, se trouver souvent à l'extérieur et intervenir sur l'espace et sur l'architecture publique. Pas n'importe laquelle, puisque de la même façon que là-bas, il y avait le côté traditionnel des musées, il est évident qu'avec les deux plateaux, et les débats publics étaient extrêmement violents, un peu comme avec la pyramide du Louvre, est-ce que cette façon, c'est en quelque sorte presque un geste blasphématoire, iconoclaste, vis-à-vis de cette architecture hyper classique qui est celle du Palais Royal ? Alors, encore une fois, comme je disais, je ne suis pas nécessairement prêtre ou missionnaire de l'art contemporain de l'installation. C'est ma vie, donc j'adore ça. Mais si vous voulez, je comprends très bien qu'il y a des gens qui peuvent trouver que le choix de Burin par rapport à cette architecture était un mauvais choix. C'est à vous de décider. Ce qui est tout à fait évident, que le caractère de cet endroit s'est modifié de façon vraiment radicale. Si avant on passait dans le palais royal, on regardait presque en silence, on le traversait. Là, quand vous allez vers le palais royal, il y a des gosses qui jouent au foot, il y a des gosses qui jouent avec ces plateaux. Bref, on a vraiment un artiste qui a changé le caractère des lieux. Et c'est pas rien. Je veux dire, on peut être d'accord ou non, mais il a réussi au moins sur ce plan-là que son installation marche sur le plan vraiment urbain. Installation, c'est quelque chose qui est aussi bien sûr souvent lié à la mémoire. Dans le cas de Boltanski, qui est probablement l'exemple le plus frappant, il s'agit d'une volonté à travers des objets qu'il assemble, qu'il, enfin, pas collectionne, mais le mot m'échappe, enfin, qui met ensemble une quantité d'objets répétitifs, ce sont des vêtements. Et là, encore une fois, l'espace est tout à fait occupé par un objet qui, bien sûr, ne nous laisse pas indifférents, même si Boltanski insiste sur le fait que son travail n'est pas un travail d'après l'Holocauste, il dit « mon travail est de quelqu'un qui est né après l'Holocauste ». Il y a une différence de travailler d'après l'Holocauste et le fait que tout artiste, dans la seconde partie du XXe siècle, il est bien sûr conscient de ce qui se passait et on ne montre pas ça sans s'attendre d'une réaction qui est lié effectivement en partie aux mains à l'Holocauste. Voilà quand même une œuvre de Land Art. J'ai choisi la facilité parce que c'est vraiment l'œuvre emblématique. Alors, je l'ai choisi, si vous voulez, puisque bien sûr, ici, il y a une transformation tout à fait évidente de l'espace, mais non seulement une transformation de l'espace, une transformation qui elle-même va se transformer. Si vous voulez, ce qui est intéressant avec certaines œuvres de Land Art, c'est qu'ils sont faits vraiment avec les éléments organiques. C'est non seulement effectivement la façon dont ils travaillent sur les liens, ce qu'ils font, mais aussi la façon dont je vais le changer, puisque là, vous voyez une image comme elle était faite. Si vous verrez, je n'ai pas apporté des images. Bien sûr, avec le temps, cette forme parfaite, cette défaite, elle se modifie selon la hauteur de l'or. Vous avez beaucoup de mal à voir, mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui travaille sur l'espace. Voilà, je terminais presque avec ces deux autres éléments qui sont aussi travail dans l'espace urbain. C'est le cas de Christo avec le pont neuf, où effectivement il modifie un espace entier en l'emballant. Et ce qui était extraordinaire, que le pont neuf, qui est traversé par des milliers de gens tous les jours, sans qu'ils voient où est-ce qu'ils passent, tout d'un coup, à travers ce travail de Christo, on découvrait les liens qu'on ne voyait plus. Et je dirais que parfois, un des mérites d'installation, c'est attirer notre attention sur un rapport avec tel et tel espace, sur la façon dont il y a déclinaison entre ce que l'artiste ajoute ou simplement enveloppe, pour qu'on découvre le même espace de nouveau. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vous laisse à la fois à Céline et à vous des questions. Je pense que Céline va commencer.
Alors voilà, il y en a qui sourient parce qu'en fait c'est Cécile.
Donc, Cécile.
À chaque fois vous dites Céline, en fait.
Pardon.
Il y a quelques sourires dans la salle. Voilà, c'est pas grave.
Pardon, excusez-moi.
Donc, en fait, donc regard dispersé avec Renaud, corps gêné avec Blackburn. Une thématique qui semble très forte dans votre ouvrage, c'est celle de l'habitat. Alors, habitat, peut-être pas comme lieu de vie, quoique, c'est une question que j'ai envie de vous poser, surtout que ben, vous l'évoquez dans un chapitre à part entière, l'artiste en demeure, mais également lorsque vous évoquez les constructivistes russes, les Prones de Elisinski, lorsque vous développez la pratique de Schwitters. Puis encore, lorsqu'à propos du pop art, vous analysez là, le bedroom ensemble de Oldenburg. Alors, ma question, elle est double, donc voilà la deuxième partie. Du coup, est-ce que le mot installation est un mot qui est bien choisi? C'est le mot qui est resté, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû garder son ancêtre pour le coup, c'est-à-dire le mot environnement? Comme vous le dites vous-même, avec le mot installation, il est difficile d'entendre installation en mouvement, installation en expansion. On a envie d'entendre quelque chose qui est posé, installé, presque institué. Alors qu'environnement, on a plus l'idée de l'immersion que vous rattachez vous-même à la notion d'installation. Et puis le mot installation ne renverrait-il pas à celui d'exposition ? Mais exposition, ce coup-ci, au sens classique, c'est-à-dire celle qui pose des objets, des choses, des œuvres, qui les place, qui les installe, plus ou moins confortablement, devant lesquelles on s'installe aussi. Voilà ma première double question.
Vous appelez ça une question double ? Moi, j'appelle ça un triple, quadruple. OK. Plusieurs remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Premièrement, je serais plutôt d'accord avec vous que le mot environnement peut-être insistait davantage sur le rapport avec l'espace, d'autant plus que le problème que maintenant le mot environnement, on l'utilise beaucoup plus souvent pour l'endart. Mais effectivement, je pense qu'effectivement pour le mot, c'était un mot peut-être plus... C'est le mot qui était utilisé au début aux États-Unis, environment, et après, il était transformé en installation. Alors, vous dites que le mot installé, effectivement, renvoie à quelque chose stable. Je suis d'accord avec vous, puisque quand on regarde dans le dictionnaire, installé renvoie non seulement à lié d'habitat, mais quelque chose qui est lié à une durée longue. Le paradoxe, effectivement, avec les installations, que justement, ce sont les œuvres qui durent, je dirais, souvent le moins longtemps possible, pour deux raisons. D'une part, quand elles sont placées dans un musée, tout bêtement, elles occupent un espace très important. Et je sais que, par exemple, Beaubourg a des centaines d'installations, mais la grande majorité sont dans la réserve, sont démontées, puisqu'elles prennent trop d'espace. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose, autant un tableau peut rester sans problème ou une sculpture, autant l'installation, effectivement, sur le plan, se pose problème. L'autre, durée limitée, c'est comme j'ai évoqué, celui de Land Art, effectivement, où les installations ne durent pas au-delà de certains temps, puisque les avaries de temps, effectivement, peuvent les modifier, voire disparaître. Donc, la réponse, oui, je serais tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi le mot a été choisi plus qu'un autre ? Je ne pourrais pas répondre tout de suite. C'est un peu le même problème qu'on peut se poser avec la non-figuration, l'abstraction. Pourquoi il y avait choix de l'autre ? Je ne sais pas. Ouh, ça ne me plaît pas. Il fait des choses. Bon, on verra bien. Remarque maintenant, ce n'est pas très grave pour le moment. Donc, je ne sais pas effectivement quel état. Je n'ai pas regardé de façon précise, de façon étymologique, pourquoi les choses ont changé à ce point-là. Mais je dirais que le mot installation, par contre, ajoute. C'est un peu comme on dit maintenant, au lieu de dire œuvre, on dit une pièce. Pour, en quelque sorte, peut-être désacraliser l'œuvre d'art et, effectivement, légitimer tous les travaux. Je crois qu'installer renvoie probablement au rapport entre le fait que l'artiste construit des éléments dans un espace donné. Je crois que c'est l'activité de l'artiste qui est accentuée par les mots, mais comme par rapport à l'espace, vous avez tout à fait raison. Maintenant, par rapport à double ou triple question, par rapport à l'histoire des demeures, le rapport avec l'architecture. Il est tout à fait clair que s'il y a quelque chose, domaine avec lequel on peut lier ou comparer l'installation, c'est l'élément d'architecture ou l'élément urbain. Première chose, presque une évidence, c'est bien sûr la différence entre l'installation et l'architecture ou l'IA construit, c'est la fonctionnalité ou le manque de fonctionnalité. Dans les deux cas, effectivement, on a un travail sur l'espace, un travail qui enferme l'espace, sauf que pour l'architecture, effectivement, il s'agit de quelque chose de fonctionnel. Encore que, parfois, effectivement, il y a des choses qui peuvent surprendre. Par exemple, on ne va pas chercher maintenant l'image, mais le fameux bedroom de Oldenburg est tout simplement, vous connaissez peut-être, c'est tout simplement une réplique, je dirais, des chambres de motel, d'une chambre extrêmement standard, en quelque sorte des lieux communs, que Oldenburg a installé plusieurs fois dans des musées différents aux États-Unis. Et effectivement, ce n'est pas facile, quand je montre ça aux étudiants ou d'autres, de dire pourquoi il ne s'agit pas d'une architecture dans la mesure où, effectivement, tout ici correspond parfaitement à cette chambre de motel. La réponse est, vous le savez bien sûr, là encore une fois, depuis Duchamp, qu'un objet modifie complètement sa nature une fois introduit dans un musée. Et de la même façon qu'avec un objet, on parle de ready-made, je parlerai ici de plutôt de ready-situation. Ça veut dire une situation qu'on a l'habitude de voir dans la vie, ça veut dire une chambre de motel ou une chambre tout court, et qu'on ne regarde plus puisque son côté répétitif, son côté lié commun est tellement évident qu'on ne le voit pas. Quand vous les mettez dans un musée, il y a une sorte de distanciation, une sorte de déréalisation, et les choses que vous passez à côté, puisqu'ils font partie de l'évidence, tout d'un coup, ils vous frappent, puisqu'il y a cette mise en scène théâtrale, c'est en quelque sorte un rapport théâtral qui se crée, et de la même façon que vous acceptez certaines scènes dans le théâtre de façon différente que vous la voyez dans la réalité, de la même façon, il s'agit de ça avec l'installation. Dernière partie, il y a des artistes qui effectivement ont travaillé avec l'architecture. Je parle des artistes qui ont utilisé leur atelier. Le cas le plus connu, c'est celui de Schwitters, qui dans une maison bourgeoise à Hanovre en 1923, il a commencé à les modifier et faire une œuvre qu'il appelle le Merzbau, qui est une sorte de Frankenstein qui modifie toute la structure de son atelier. L'artiste est vraiment habité par son œuvre dans le sens littéral. Ou d'autres artistes, l'exemple le plus connu, c'est Dieter Roth, l'artiste allemand qui a, il est mort maintenant, mais qui a exposé son atelier. Si vous voulez, c'est son atelier, l'architecture de son atelier, qui est devenu son œuvre avec tous les éléments qui étaient dedans. D'autres artistes qui ont travaillé avec, je dirais, une sorte de maquette de maison, par exemple des œuvres de l'artiste israélien Absalom. D'autres exemples existent, mais je pense que j'ai répondu au moins en partie à votre question.
Et du coup, vous en avez entraîné une autre avec la bedroom d'Oldenburg, il y a quand même un changement de matériaux utilisés qui fait que ce n'est pas une simple chambre d'hôtel qui est restituée, mais ce ne sont pas des draps, ce sont des toiles plastifiées, etc. Vous avez parlé d'un rapport théâtral à la vie, donc la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est revenir finalement à cette origine des installations. Est-ce dans l'expérimentation ou les expérimentations de Capro? Est-ce qu'il y a une origine multiple, c'est-à-dire autant le vide de Klein, les œuvres de Beuys, le travail de Buren, Fluxus, l'Arte Povera, le pop art, le minimalisme? Finalement, à chaque chapitre dans lequel vous traitez des installations au regard d'un mouvement artistique à chaque fois, eh bien, à chaque fois, on a l'impression que c'est plus exactement la même installation, comme si chaque mouvement donnait sa coloration et si on avait finalement des petites définitions, des petites idées d'installations différentes. Donc ma question, c'est...
J'espère que ce n'est pas seulement une impression, parce que c'est vrai.
Voilà. Donc ça va, tout va bien là. Est-ce que, au final, les installations, c'est un art caméléon? Et finalement, y a-t-il... Alors voilà une question, une vraie. Y a-t-il un mouvement artistique qui n'utilise pas les installations?
Je crois pas. Je ne sais pas ce que vous appelez un mouvement artistique, mais si vous voulez, s'il s'agit d'un genre, comme oui, on dit, oui. Discipline, peinture, sculpture, etc. Non. Bon, mais s'il s'agit de mouvement, il va falloir vraiment que je regarde précisément. Mais il est tout à fait clair pour moi. Et là, l'expression caméléon me semble tout à fait juste dans la mesure J'ai utilisé un autre mot, je crois que j'ai utilisé, je ne me rappelle plus quel mot que j'ai utilisé, je disais que les installations sont en quelque sorte un sismographe de la modernité, puisque même, si vous voulez, regardez autour de vous, non, regardez pas autour de vous, mais pensez, le terme installateur n'existait pas. On ne parle pas des artistes installateurs, on parle des vidéastes, on parle des peintres, on parle des sculpteurs. Je n'ai pas l'impression qu'en français, au moins, on utilise les mots. Tout simplement parce que, sauf des cas rares, vraiment quelques artistes, le monumentaire, rappelez-moi, comment il s'appelle l'artiste russe. Kabakov, merci. Voilà. Kabakov. Quelques autres artistes, a priori, je dirais pas merci. Je dirais pas qu'il y a les artistes qui ne font que des installations, mais pratiquement une bonne partie des artistes de la modernité font aussi des installations. Et dans ce sens-là, il est évident que les premières installations qui étaient faites par les mêmes artistes qui faisaient les happenings étaient des installations plus sauvages, plus éclatées. Les installations qui étaient avec les pop art étaient plus lisses, plus narratives, plus figuratives. Les installations qui sont faites par les minimalistes sont davantage basées sur le rapport direct entre la forme et l'espace. Les installations qui sont faites par les artistes dans l'informe sont dans le dépassement des lieux de galerie. Bref, le problème, encore une fois, de la définition d'installation, qu'il est absolument impossible de la définir à travers le travail stylistique, puisque à la différence des styles de l'histoire de l'art, où vous avez baroque, classicisme, etc., etc., c'est absolument impossible de les faire avec les installations. Je ne sais pas s'il y avait encore troisième question dans le des questions.
Non,
répondu,
je m'étais arrêtée là, mais elle n'était pas terminée. Effectivement,
je m'en doute.
Donc, vous avez même écrit que l'installation était le sismographe de la postmodernité.
Oui, parce que c'est la poubelle. C'est là, pour être vraiment brutal, quand je dis, l'avantage, je pense que c'est pour ça que l'installation fascine autant les artistes, elle n'a pas de limites. C'est en quelque sorte une œuvre totalement hybride qui permet d'utiliser n'importe quel matériau, puisqu'il n'y a pas, quand je disais qu'il n'y a pas de définition stylistique, on ne peut pas dire que les installations sont faites de bois, elles sont faites dans n'importe quelle matière, ce qui leur donne une liberté extraordinaire, et je pense que ça, c'est la partie fascinante de ça, mais ce qui demande aussi un contrôle de la part de l'artiste, puisque effectivement, cette possibilité de faire n'importe quoi peut aboutir aussi à n'importe quoi. Donc, si vous voulez, côté extrêmement hybride, côté extrêmement allongé, d'où toute la richesse de cette œuvre qui n'a pas vraiment une fermeture disciplinaire qu'on peut avoir même des disciplines plus récentes comme la vidéo, où il y a quand même des outils qui sont utilisés, des éléments qui sont mis en scène, qui n'est pas le cas avec l'installation. La preuve, on parle aussi d'installation vidéo, bien sûr.
Alors, mais y a-t-il un rapport privilégié entre l'installation et happening ? Vous citez Capro, SeaWorld, Jim Dine, Car Crash, les deux dans les années 60, 60 et 62. Ma question, ce serait finalement, qu'est-ce qu'un happening ? Quel rapport à l'installation ? Et par rapport également à une troisième forme, qui est la forme théâtrale que vous avez citée tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport théâtral à l'œuvre, à propos toujours de la bedroom de Oldenburg. Vous en décelez, on en décèle des éléments, bien sûr, de réponses dans votre livre. Mais est-ce que vous pourriez ici préciser le rapprochement, les différences entre happening, installation et théâtre?
Je vais essayer. Alors, je ne vais pas être hypocrite. On a parlé 3 minutes avec Cécile, au téléphone, et elle m'a dit qu'une des questions qu'elle va me poser touchera effectivement au théâtre. Donc, je préparais quelques images, puisque, encore une fois, c'est pas un piège, si vous voulez. C'est simplement parce qu'encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre à travers les images. Comme je ne savais pas quel type de public j'aurais, je préférais montrer des images. Donc, donc c'est pas ça. Ça, c'est pour la question piège sur la sculpture.
Que je n'ai pas posée. Je ne sais pas si je poserai.
Bon, comme ça, j'aurai les images. Ce n'est pas grave.
En fait, j'avais dit à Itzhak Goldberg que j'allais poser deux questions, une sur la sculpture et une sur le théâtre. En fait, jusqu'à présent, je viens juste...
Voilà, c'est
voilà,
la,
donc tout était vraiment préparé.
La preuve, c'est pour ça que j'ai les images pour ça et je n'avais pas pour les autres, malheureusement. Voilà, si vous voulez, effectivement, les crashs. James Dine, qui faisait des pennings, ça veut dire effectivement des activités extrêmement... Enfin, bref, relativement spontanées. Je dirais que c'est un peu mythifiant de dire qu'il n'y avait aucun script, mais au moins il y avait un sort de script assez limité par rapport à la pièce théâtrale, je reviendrai tout de suite là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les personnages qui jouaient dans l'opening, mais vous voyez aussi le décor lui-même qui était installation. Et là, pour une fois, je vais citer, voilà ce qu'il dit. Si on exclut des personnages, la scène que j'ai construite pour le car crash que vous venez de voir était aussi puissante que tout autre environnement, on est dans les années 60 aux États-Unis, donc c'est le terme environnement, que j'ai produit auparavant. Donc je dirais dans ce sens-là qu'au moins pour ces artistes-là, à la fin des années 50, au début des années 60, Kaprov, Oldenburg, d'autres, etc., premièrement, on a des artistes qui font les deux activités, qui font aussi bien les happenings et les installations, et très souvent, effectivement, le chausseur écoute, voilà ce qu'il dit Kaprov, un environnement ressemble à un happening, dans les deux cas, le public devient part de l'action, extrêmement important, je reviendrai tout de suite là-dessus, la grande différence entre ces deux formes artistiques est le facteur temps. L'environnement est une présence prolongée, sans un moment dense, faite pour le public qui paye 50 cents pour le privilège d'en faire partie. Alors, les liens entre les happenings et les performances, entre l'happening et l'installation, c'est la participation du public. Alors, bien sûr, là, encore une fois, il ne faut pas trop mythifier, parce qu'effectivement, les artistes des années 60, au moins au début, parlent de cette participation, cette réactivité, comme on dira aujourd'hui. Parfois, elle est physique, elle ne l'est pas aussi souvent que sa physique. Chez Kaprov, elle l'est, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais au moins, au niveau des possibilités, au moins symboliques, vous êtes face à un espace réel et vous pourriez pénétrer. Tandis, je dirais que la différence entre un tableau où il s'agit toujours d'une projection, vous ne pouvez pas entrer dans le tableau, une installation, même si l'artiste ne permet pas nécessairement d'entrer dans l'installation, vous êtes face à un espace réel et vous pouvez vous identifier comme pénétrant éventuellement de façon hypothétique dans l'espace. Alors, le lien entre les happenings et les performances ou les happenings et l'installation, comme je disais, c'est leur aspect contemporain, puisqu'ils ont fait dans la même période. Et je dirais, là aussi, cette façon, c'est à travers cela qu'on lit tout ça au théâtre. Dans le décan, effectivement, on a un rapport différent entre les spectateurs et la scène. Là, je reviens encore une fois par rapport à ce que je disais au début, par rapport à un rapport qui converge ou un rapport qui se disperse. Vous savez très bien que le théâtre classique, au moins jusqu'au Wagner et même après, c'était un théâtre qui est fait pour un spectateur, je dirais un spectateur roi. Le spectateur se trouvait dans la salle, il était dans une position frontale et il y avait un seul point de vue. Ce point de vue était hiérarchisé, c'est le point de vue, la perspective, et c'est comme ça qu'on regardait le théâtre. La différence avec les happenings ou la performance, c'est bien sûr la position et l'activité des spectateurs est tout à fait différente, puisque comme dans le carnaval ou comme dans le théâtre de la rue, il peut faire partie, il peut se déplacer, il n'y a pas nécessairement un lien plus hiérarchique que d'autres et plusieurs éléments peuvent avoir lieu de façon simultanée. Je dirais que même si avec l'installation, il n'y a pas cette dynamique qu'on trouve avec l'happening, le principe est relativement proche, puisqu'on n'a plus ce regard spécifique qu'on a, par exemple, face à un tableau où il faut se trouver de telle et telle distance, où on a un point de vue préférable ou préférentiel, tandis qu'avec l'installation, on peut se déplacer, il faut le regarder de tous les points de vue, et dans ce sens-là, effectivement, on a quelque chose de très différent. Alors, il y a encore quelque chose qui lie, fait un lien extrêmement fort entre l'installation et le théâtre de façon générale, et surtout, je dirais, l'opéra, c'est pour ça que je mentionnais Wagner, c'est l'idée de l'œuvre d'art totale. C'est quelque chose de très important, puisque je dirais que pour moi, une des seules définitions que j'aurais pu donner à l'installation, c'est l'idée de l'œuvre d'art totale, ça veut dire une œuvre hybride qui inclut n'importe quelle discipline artistique et une discipline pas artistique. Quel est le lien et la différence entre ça et l'œuvre d'art total? L'œuvre d'art total était quelque chose qui a pris beaucoup d'importance au milieu du 19e siècle avec le romantisme et par la suite avec le symbolisme, par la suite avec l'abstraction, avec ce qu'on appelle la synesthésie, ça veut dire des mélanges de différentes disciplines. Et c'était une sorte de rêve, une sorte d'inversion de la tour Babel, mais au niveau des liens entre les différentes disciplines qui fusionnent tous et créent en quelque sorte une œuvre d'art total. Donc les composants différents crée une unité complètement fusionnelle et donc l'impact est extraordinaire. La différence entre une œuvre d'art total, c'est justement ce côté fusionnel, ce côté lisse, ce côté harmonieux, ce côté de consonance, tandis que ce qu'on a avec une installation, c'est peut-être aussi une œuvre d'art total, mais où au XXe siècle, les artistes n'y croient plus à cette capacité visionnelle. Ce n'est pas par hasard, si vous voulez, que l'œuvre d'art total, qui est une forme d'utopie, s'est développée au XIXe siècle, où on a toute une série d'utopies politiques, utopies sociales, etc., et qu'au XXe siècle, les artistes sont soit plus pessimistes, soit plus lucides, c'est comme vous voulez, n'y croient plus à cette possibilité d'une œuvre tout à fait fusionnelle. Et justement, ce qui est frappant avec les installations, c'est d'une part, sur le plan plastique, que là où avec l'œuvre d'art total ou l'état parfait, il y avait cet aspect fusionnel côté consonance, au contraire, avec l'installation, on a souvent les hertz, les dissonances, tous les éléments-là qui montrent effectivement que cette idée d'utopie était effectivement utopique. Et c'est aussi pas par hasard si les installations sont souvent utilisées comme une forme de critique sociale, politique, extrêmement efficace.
Alors là, vous m'incitez à poser une question, mais juste avant...
Je fais ça.
C'est la tentation. Tout avant, est-ce que vous pensez que, comme vous avez cité le rapport théâtral qui se crée devant la bedroom d'Oldenburg, est-ce que vous pensez, comme le supposait enfin, l'avancée Michael Fried, qu'on peut avoir un rapport théâtral à l'œuvre devant une œuvre minimale, minimaliste?
Bon, là, je l'ai préparé pour la sculpture, mais je vais vous quand même montrer, je vais en profiter. Je pense que oui, tout simplement, pas n'importe quel œuvre minimaliste, c'est peut-être aussi une façon intermédiaire de parler un peu d'une forme de sculpture, ce qu'on appelle les objets spécifiques, objets de Don Legood. Il y a pour moi une différence très claire entre un objet comme celui-ci, qui bien sûr n'est pas une sculpture traditionnelle, mais au niveau des principes, enfin en plus on peut parler des reliefs, je ne sais pas le terme, l'objet spécifique, il est pour moi tout à fait évident qu'ici ce n'est pas une installation, c'est une sculpture contemporaine, et c'est pas, si vous voulez, vous ne le répétez pas, mais je pense malgré tout que la seconde partie du XXe siècle était beaucoup plus marquée par la sculpture que par la peinture, au moins à partir des années 70, au moins trois dimensions, par, je dirais, ce que Roselyne Krauss appelle sculpture dans les champs larges, puisque si avant la sculpture était simplement un objet, une masse, là on a une sorte d'éclatement, pas tout à fait visible ici, mais c'est visible à travers toute une scène de sculpture. Ici, on a encore une sculpture, puisqu'il s'agit d'un objet statique qui est donné dans, comme une sorte d'une masse dans l'espace qui ne se modifie pas. Alors, je ne dirais pas qu'ici, c'est plus dynamique, mais il est évident que quand vous regardez ces trois objets, Là, encore une fois, comme avec toute installation, votre corps entre en jeu, puisque on a trois formes qui sont les mêmes formes, c'est Maurice Louis, c'est trois formes en forme de L, c'est exactement la même forme, mais selon la façon dont elle est posée, allongée en moté, vous réagissez différent, puisque ça renvoie davantage à un équilibre, plus stabilité, moins stabilité. Bref, on a ici, je dirais, que s'il est assez rare qu'une sculpture isolée peut être considérée comme installation, des rapports entre plusieurs formes qui sont prévues par l'artiste pour que les spectateurs, sans le rapport entre eux, peuvent être considérés comme une installation. Est-ce que ça répond un peu à votre question ?
Ça répond à ma question, merci. Et du coup, je vais aller vers la tentation, la question de tout à l'heure. C'est la question du rapport au réel. Est-elle centrale dans l'installation ? Est-ce qu'elle repose, cette installation ou ces installations, sur un certain tissage entre l'art et la vie ? Ou s'il s'agit non pas de la vie telle qu'elle pourrait être, comme dans l'art total, je vous cite, mais de la vie telle qu'elle est, est-ce qu'il s'agit d'un dialogue avec la réalité, pour reprendre un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, je pense à nouveau Merzbow de Schwitters, je vous cite, qui est à l'image sans être l'image d'une réalité en désagrégation. Peut-on la prolonger finalement avec un rapport au contexte politique qui peut être très fort, notamment lorsque vous, dans votre tout dernier chapitre, traitez finalement de ces artistes israéliens qui portent en leur œuvre le conflit israélo-palestinien. Est-ce cette réalité-là que l'installation porte et donne présente ?
Pour vous montrer que c'est spontané, j'ai aucune image pour répondre là-dessus. Et pour être honnête, je répondrai non. Je répondrai non dans le sens, je dirais oui, les installations, mais plus seulement les installations, si vous voulez. Il y a maintenant d'autres formes artistiques, qu'il s'agisse des vidéos, qu'il s'agisse de documents, qu'il s'agisse de travail de la photographie, etc. L'installation était peut-être une des formes artistiques qui vraiment introduit le quotidien de la façon la plus forte. Ça sera absolument injuste de réserver cette forme de rapport critique de la société ou dialogue avec les sociétés uniquement aux installations. On peut très bien faire ça avec n'importe quel document, avec n'importe quel collage, aller voir l'exposition qui est maintenant soit à la Maison Rouge, soit au Jeu des Pommes, de Mathieu... Voilà, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui expose des photos qu'il a réunies avec un historien et à partir d'une maison d'aliénés des années 50. Et ce sont des photos qui étaient faites par les gens qui étaient enfermés là-bas et qui ont le regard sur la vie. C'est extrêmement bouleversant et c'est un dialogue avec la vie et ce n'est pas nécessairement une installation. Alors, je disais que si l'installation a la possibilité, peut-être avec une facilité relative de faire ces liens-là, c'est certainement pas quelque chose que de nos jours, réservé à l'installation, ça sera trop d'honneur les rendre.
D'accord. Alors pour terminer, une dernière, toute dernière, j'avais quelques mots à dire et une petite question relative à la sculpture, donc finalement. mais je voulais partir de votre méthode. Parce que la méthode que j'ai trouvée, mais c'est peut-être pas votre méthode, hein, c'est celle que j'ai trouvée moi. Voilà, à ma lecture, chaque lecteur, donc je suis là aussi pour vous parler un petit peu de ma lecture, ce sont mes questions, ma lecture. Hein. C'est peut-être pas la vôtre en vrai. J'ai trouvé que votre écriture savait ménager le suspense, l'envie, et ne pas donner tout de suite et soulever des questions. Pour y répondre plus tard, c'est-à-dire au chapitre d'après ou plusieurs chapitres plus loin. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne vais peut-être pas trop détailler, mais j'avais fait comme ça une petite enquête. On dirait à quel moment est-ce qu'il va répondre à cette question qu'il a posée. Quelquefois, c'est 3-4 chapitres plus loin. Et c'est extrêmement intéressant.
Par exemple, en fait, c'est un roman policier.
Voilà, c'est ça. presque. En tout cas, je l'ai lu avec autant de plaisir. Donc... l'assemblage, vous posez la question de l'assemblage au chapitre 1 et cette notion d'assemblage sera distinguée au chapitre 5, par exemple. Donc, entre-temps, vous l'avez rapproché d'autres notions, d'happening, performance, l'objet, la question de l'objet, etc. Et on la retrouve beaucoup plus loin. Donc, c'est très intéressant. Et à vous lire, on a l'impression de suivre, j'ai eu l'impression, de suivre le travail d'un sculpteur qui évite progressivement la matière, tout en dérivant son geste et son attention sur l'ensemble de la masse à sculpter. Et finalement, c'est une sorte de mouvement des informations, mouvement de la pensée, qui dégrossit le sujet, qui, au final, j'ai l'impression, le cisèle. Voilà. Alors, la sculpture, voilà comment j'arrivais à la question de la sculpture, finalement, qui ne fait pas l'objet d'un chapitre distinct. Mmh. Hein. Mais j'avais envie de vous demander, avez-vous un lien privilégié avec la sculpture, vous qui avez consacré un livre ? La sculpture, c'est peut-être ce qui viendrait en premier à l'esprit lorsqu'on évoque les installations. Lorsqu'on entend installation, on peut penser à se référer tout de suite finalement à quelque chose qu'on connaît. Alors soit on va tout de suite vers le land art, voilà, soit on se dit ben, c'est la sculpture auquel je pense. Et la sculpture, c'est ce dont vous distinguez très vite les installations. Donc l'installation peut-elle être différenciée de la sculpture ? Est-ce qu'il y a des objets qui sont intermédiaires entre les deux ? Que faire des cubes de Sol Lewitt, que faire du pupille de Kunz, etc. J'avais pris des images aussi, du coup j'avais amené ma clé aussi, mais bon, on peut pas les, elles passent pas de l'un à l'autre, d'un écran à l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là.
D'accord. Pour... Donc, merci pour la méthode que je savais pas, mais je pense que ma méthode vient du fait que j'ai pas fait un plan. C'est le problème. Donc, comme je ne sais pas faire un plan, ça se construit de façon organique. Et Dieu merci, l'ordinateur permet de placer les choses d'un côté à l'autre. Donc, je n'arrête pas de les bouger. Donc, j'aimerais bien avoir une méthode. Mais enfin, bon, je vous remercie. C'est pour votre lecture. Hein.